répondre amen à cette introduction. Voilà, en tout cas, nous allons bien, pour faire écho à ce que disait Jean-Marc tout à l'heure. Nous survivons à la Bretagne et aux vacances, tout va bien. Il y a pire, effectivement. Non, nous sommes très bien et nous sommes vraiment heureux de profiter de cette belle région que nous découvrons jour après jour. Et merci encore donc à Nicole, voilà, qui nous accueille si généreusement chez elle. Et puis merci de votre accueil à chacun et à chacune. Voilà, c'est un grand plaisir pour nous d'être avec vous dans ce temps de vacances et donc d'avoir cette possibilité ce matin de partager la parole du Seigneur. Alors tout d'abord, j'aimerais, dans un petit préambule, rendre grâce. Dans la parole, il nous est dit de rendre grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ, 1 Thessaloniciens 5:18. C'est vrai que la Bible vraiment met le focus en fait sur le fait de rendre grâce, de développer véritablement une culture, je dirais, une culture de la reconnaissance. Et c'est vrai que quand nous venons au Seigneur dans la prière, eh bien fréquemment nous venons avec nos fardeaux, avec peut-être nos doutes, avec nos questionnements, avec peut-être aussi une certaine liste de choses que nous aimerions que le Seigneur résolve pour nous. Et en réalité, je ne suis pas sûr que vraiment le Seigneur veuille cela en priorité. Mais plutôt, quand nous étudions sa parole, quand nous voyons la fréquence justement d'action de grâce, d'accompagner en fait nos prières par l'action de grâce, la reconnaissance, je crois vraiment que le Seigneur est sensible à la reconnaissance que nous voulons lui exprimer. Et c'est personnellement en fait tout un cheminement aussi que nous avons eu, notamment avec Anne-Marie, donc ces dernières années. Anne-Marie a eu l'occasion la semaine dernière de vous parler de Mère en prière. Il y a quelques secrets qu'elle ne vous a pas dévoilés encore dans Mère en prière. Mais un de ces secrets que je vais dévoiler maintenant, c'est justement de passer par des temps non seulement de prière, comme le nom l'indique, Mère en prière, mais de reconnaissance aussi. Et voilà, ne plus arriver devant Dieu avec des requêtes, des supplications, mais vraiment auparavant de passer par des temps de louange, comme nous l'avons fait ce matin, par des temps peut-être de repentance, quand le Seigneur interpelle nos cœurs, mais aussi par des temps de reconnaissance, de constater tout simplement ce que Dieu fait et ce que Dieu fait de bon. Et oui, il n'intervient pas que chez mon frère ou chez ma sœur, mais il intervient aussi dans ma propre vie, dans mon propre entourage et dans mon cœur personnel. Et c'est vraiment tout un cheminement que nous avons dans la prière, que nous avons vécu ces dernières années. Et Mère en prière nous a inspiré aussi dans l'église de Paris à justement parcourir ce chemin de prière de façon relativement systématique et de passer par des temps de remerciement. Et c'est vrai que finalement au début et peut-être encore maintenant parfois, nous apercevons que c'est le parent pauvre. C'est-à-dire nous pouvons louer le Seigneur, nous pouvons nous repentir aussi quand le Seigneur nous interpelle, mais quand arrive le temps de la reconnaissance, de dire ce que Dieu a fait, nous devons nous arrêter et véritablement constater quels sont les bienfaits que Dieu a fait dans notre quotidien, dans notre vie. Et c'est tout un exercice à développer. Et aujourd'hui, quand j'étais en préparation pour ce temps, je voulais aussi remercier le Seigneur. Quand j'étais en préparation pour ce temps ce matin, il m'a fait voir et prendre conscience aussi tout simplement du témoignage de l'église de Kevin ici. Et comme quelque chose qui est un phare dans cette région. Et c'était vraiment aussi avec toute cette reconnaissance que je viens devant vous ce matin. Étant conscient donc du témoignage de ce phare qui est donc dans cette région de Bretagne et qui est vraiment comme un phare spirituel qui, je le crois, illumine la nuit spirituelle, la nuit bretonne. Mais vous savez, la nuit, elle est aussi sur le reste de la France. Et c'est vraiment, et je voyais en fait ce phare qui, pendant des années, encore aujourd'hui, eh bien, brille et apporte, comme il nous était rappelé ce matin dans Jean 1 et verset 9, cette lumière qui est la véritable lumière, celle qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Et c'est, je le crois aussi, eh bien, le témoignage de cette Église. Et je suis aussi vraiment reconnaissant pour cela ce matin. Je crois qu'au fil des années, et encore aujourd'hui, eh bien, c'est véritablement la nourriture qui rassasie, qui est donnée, qui correspond vraiment aux besoins des gens, de leur âme, aux besoins les plus profonds. Nous avons eu encore la semaine dernière un témoignage donc par un jeune homme. Je ne pense pas qu'il soit parmi nous ce matin. Mais voilà, c'était particulièrement édifiant de voir eh bien, comment le Seigneur avait finalement interpellé son cœur et comment il l'avait rassasié quelque part par voilà, ce que le Seigneur lui avait donné de vivre par son esprit, par sa parole. Et voilà, c'est vraiment... Voilà, plein de reconnaissance et conscient donc de ce témoignage que je viens devant vous donc apporter cette parole. C'est voilà, voilà aussi quelque chose de particulièrement émouvant. c'est vrai que ça fait très peu de temps que Anne-Marie et moi donc vous connaissons. La première fois, en fait, c'était en 2014. Donc, vous voyez, ça fait 6 ans. Je connais Jean-Marc depuis un petit peu plus longtemps, mais en même temps, ce sont vraiment des réunions de travail que nous avons. Donc, nous apprenons aussi à nous découvrir. Et le Seigneur aussi, eh bien, met, comme l'année dernière, par exemple, des rendez-vous divins pour nous connecter davantage l'un avec l'autre et aussi avec Francine et Anne-Marie, les uns avec les autres. Et c'est vraiment avec beaucoup de plaisir que nous découvrons et que nous apprenons donc à vous connaître. Voilà, donc ça c'était le petit préambule, mais que j'avais à cœur aussi de vous partager. Et ce matin, eh bien, j'aimerais parler d'un texte qui me tient à cœur depuis quelque temps et avec lequel je chemine et qui me semble à propos, au-delà des phares qui existent, en Bretagne et ailleurs, hein, il faut se souvenir qu'en France, il y a, ne serait-ce que quand on regarde le côté évangélique du christianisme, il y a 2000 églises à peu près qui sont recensées par le CNEF, c'est-à-dire des églises en fait qui donnent 3 cultes par mois minimum. Donc il y a 2000 lieux de culte environ, donc en France métropolitaine. Mais au-delà de cela, c'est vrai qu'il est difficile de ne pas voir le désert spirituel globalement qui est la réalité de notre pays. Tout à l'heure, Jean-Marc parlait de ce qui avait été dit donc des années en arrière, comme quoi c'était l'Afrique qui viendrait évangéliser la France. Et c'est vrai que c'est quand même une réalité que nous observons aujourd'hui. Aujourd'hui, quand nous sommes dans nos églises en région parisienne, je suis pasteur donc à l'église apostolique à Paris, eh bien, nous avons une salle extrêmement colorée de diverses nations. Et c'est vraiment aussi un enrichissement. Et on se dit, mais comment est-ce que l'Église métropolitaine aujourd'hui serait sans ses frères et sœurs, justement, qui viennent d'Afrique, qui viennent des Antilles, qui viennent d'autres pays, avec une foi vivante et au bénéfice desquels eh bien, nous sommes aujourd'hui. C'est un véritable soutien que nous pouvons... apprécier, que nous pouvons vivre de par tout simplement eh bien, cette implication. Et j'étais d'ailleurs il y a peu de temps dans une pastorale Paris, donc Paris Nord-Ouest, on a plusieurs pastorales en fait sur Paris, Paris Nord-Ouest, et dans un tour de table, je réalisais que finalement, j'étais quasiment le seul métropolitain de souche. Il y avait... quelqu'un qui était... il y avait des anglo-saxons, il y avait des personnes, en fait, d'arrière-plan suisse aussi. Je sais qu'il y en a certains ici. Mais voilà. Et en réalité, eh bien, c'est tout un support, je crois, que la France a eu ces dernières années à travers des frères et des sœurs qui se sont sentis vraiment appelés par le Seigneur pour rejoindre notre beau pays. Alors, j'aimerais lire dans Ézéchiel, au chapitre 37, Vous savez, quand il est question de cette vallée des ossements, nous allons lire les 14 premiers versets. Je vais lire dans la version du semeur ce matin. La main de l'Éternel se posa sur moi et l'Éternel m'emmena par son esprit et me déposa au milieu d'une vallée pleine d'ossements. Il me fit promener près d'eux, tout autour, et je constatais que ces ossements étaient innombrables sur toute l'étendue de la vallée et qu'ils étaient totalement desséchés. Il me demanda, « Fils d'homme, crois-tu que ces ossements revivront ?» Je répondis, « Toi seul, Seigneur éternel, tu le sais. » Puis il me dit, « Prophétise sur ces ossements-là et dis-leur, ossements desséchés, écoutez ce que dit l'Éternel. Voici ce que vous déclare le Seigneur l'Éternel. Je vais faire venir en vous l'Esprit et vous revivrez. Je mettrai sur vous des nerfs, je vous revêtrai de chair, je vous recouvrirai de peau, je mettrai en vous l'Esprit et vous revivrez, et vous reconnaîtrez que je suis l'Éternel. » Je prophétisais donc comme j'en avais reçu l'ordre. Et tandis que je prophétisais, il y eut soudain un bruit, puis un mouvement se produisit, et les eaux se rapprochèrent les uns des autres. Et pendant que je regardais, voici qu'il se formait sur eux des nerfs et de la chair, et que la peau venait les recouvrir, mais qu'il n'y avait pas d'esprit en eux. Alors l'Esprit me dit, « Fils d'homme, prophétise à l'adresse de l'Esprit. Prophétise et dis à l'Esprit, voici ce que déclare le Seigneur l'Éternel. Esprit, viens des quatre coins du ciel et souffle sur ces morts pour qu'ils revivent. Je prophétisais donc comme il me l'avait ordonné. Alors l'Esprit entra en eux et ils reprirent vie. Ils se dressèrent sur leurs pieds et ce fut une immense armée. Il me dit, fils d'homme, ces ossements-là représentent toute la communauté d'Israël. Voici ce qu'ils disent, nos os sont desséchés, notre espérance s'est évanouie, la vie nous a été arrachée. C'est pourquoi prophétise et dis-leur, voici ce que dit le Seigneur l'Éternel, je vais ouvrir vos sépulcres et je vous ferai remonter de vos tombes, ô mon peuple, et je vous ramènerai dans le pays d'Israël. Vous connaîtrez que je suis l'Éternel lorsque j'ouvrirai vos sépulcres et que je vous ferai remonter de vos tombes, ô mon peuple. Je mettrai mon esprit en vous, et vous revivrez, et je vous établirai de nouveau dans votre pays, et vous reconnaîtrez que moi, l'Éternel, j'ai parlé et j'ai agi. L'Éternel le déclare. Amen. Alors ce texte, comme il est écrit, parle bien sûr d'Israël. Cette prophétie s'applique à ce peuple. Et je ne vais pas rentrer en fait dans une interprétation précise de ce texte par rapport à cet aspect donc d'Israël. Mais je vais en fait plutôt parler de la manière en fait dont Dieu peut nous interpeller aujourd'hui par rapport à la situation dans laquelle nous nous trouvons, donc dans notre pays, dans notre contexte, par rapport à ce texte donc prophétique. La première chose, en fait, que nous pourrions trouver, évidemment, comme pont entre notre situation actuelle et puis ce texte, eh bien, c'est cette vallée pleine d'ossements. Alors, ce qui est intéressant, en fait, c'est que l'on voit que ces ossements étaient innombrables, en grand nombre, et qu'ils étaient sur toute l'étendue de la vallée, et aussi, en fait, qu'ils étaient totalement, totalement desséchés. Et comme je le disais tout à l'heure, nous sommes en France, je le crois, vous n'allez pas me contredire, eh bien dans un désert spirituel. Nous sommes globalement dans un état de dessèchement. Nous sommes globalement dans quelque chose en fait qui pourrait... alors on ne parle plus trop en fait de tiers-monde ou de quart-monde. À une époque en fait on parlait davantage de cela, mais spirituellement on comprend bien ce que cela veut dire aussi. Et je crois qu'on parle plutôt de seuil de pauvreté ou de choses comme ça. Peut-être nous sommes en dessous de ce seuil de pauvreté en France, n'est-ce pas? Nous sommes en tout cas dans un état, de dessèchement, dans un état de pauvreté spirituelle, globalement. Nous ne sommes pas dans un contexte, en fait, où les conversions eh bien, se multiplient et les gens se pressent aux portes des églises. Il y a des conversions, nous remercions le Seigneur pour cela, mais force est de constater en fait, eh bien, que c'est quelque chose de relativement restreint. Et vous savez, quand on regarde en fait, les statistiques des églises sur, au-delà des, au-delà des quelques années, peut-être sur 10, sur 20 ans, en fait, on constate quand même qu'il y a une certaine, certes une certaine progression, mais qui est relativement mineure. Quand on dit qu'il y a une création en fait, d'églises tous les 10 jours dans le monde évangélique aujourd'hui en France, c'est exact. Mais en même temps, il y a des églises aussi qui disparaissent. Et globalement, on n'est peut-être pas sur une stabilité, mais sur une progression extrêmement légère. Donc ça, c'est le panorama en fait, global de la France aujourd'hui. Et si vous discutez avec les personnes donc, qui tiennent ces statistiques, en fait, eh bien, ils pourront vont confirmer cela pour avoir discuté récemment avec Daniel Lichty sur ces sujets. Quand nous regardons donc, le pourcentage de chrétiens en France, quand on regarde la frange évangélique, donc, c'est à peu près 1%. Donc si on compte après donc, les personnes qui ont une foi vivante aussi dans les autres branches du christianisme, peut-être nous arriverions à 2%, je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est quelque chose de relativement mineur et de relativement faible dans notre pays. Et force est de constater eh bien, que l'influence du christianisme dans notre société n'est pas forte. C'est quelque chose qui est au contraire plutôt relégué à la sphère privée, qui est plutôt relégué en fait dans des... voilà, qui ne fait pas partie en fait, des courants majeurs de notre société, nous le savons bien. Nous avons appelé, nous avons traversé dans la France le siècle des Lumières. Paris est appelé aussi la ville des Lumières, mais il est bien clair qu'il ne s'agit pas de la lumière de Dieu, de la lumière de Christ, mais qu'il s'agit bien d'autres lumières. Quand nous regardons, et nous avons pu avec Anne-Marie donc, visiter cette semaine la Bretagne, nous constatons que dans chaque village, au centre, eh bien, il y a un clocher, il y a une église. Et cela, je crois que c'est vraiment le témoignage d'un passé peut-être glorieux, voilà, avec aussi quelques ombres, mais en tout cas, quelque chose où un passé où l'église... La vie religieuse était au centre de la communauté, au centre du village. Voilà, c'est un témoignage en fait de l'architecture, mais qui traduit en fait une certaine réalité qui était celle du passé, qui était celle en fait de siècles passés. Mais aujourd'hui, la réalité spirituelle de notre pays n'est plus celle-ci. Et c'est quelque chose auquel nous pouvons aspirer. De vivre à nouveau l'évangile au centre de la cité. Est-ce que nous croyons que c'est quelque chose de possible, que le Seigneur remette l'évangile au centre de la cité, que la vie spirituelle soit vraiment quelque chose qui soit au cœur de la société? Je le crois personnellement, et c'est quelque chose auquel nous devons aspirer, nous pouvons aspirer. Quand on regarde le livre des Actes des Apôtres, nous observons aussi une vitalité particulière concernant l'Église. Quand nous lisons les Actes des Apôtres, nous voyons combien la parole était accompagnée de signes, de prodiges, de miracles. Et aujourd'hui, même s'il y a des guérisons, même s'il y a des prophéties, eh bien, en termes de signes et de prodiges, je crois qu'il y a aussi une pauvreté dans notre pays. Voilà, toutes ces choses, en fait, nous font penser qu'il y a vraiment donc, un dessèchement que nous pouvons observer, un désert, et qu'il y a véritablement eh bien, besoin d'un renouvellement en profondeur, d'un réveil spirituel, je dirais, dans notre pays. Et vraiment besoin, en fait, d'une visitation de la part de notre Seigneur. L'Église, tout d'abord, l'Église en France, a besoin, je le crois profondément, d'un réveil, d'une aspiration, d'une soif de Dieu est véritablement eh bien, de vivre une nouvelle dimension de réveil spirituel. La France en a connu dans le passé. On se souvient, par exemple, du temps bien lointain des Huguenots. Pour avoir lu, peut-être certains d'entre vous ont-ils lu des témoignages. Nous avons lu, par exemple, le théâtre des Cévennes, où nous voyons même des enfants, en fait, prophétiser. Tout un mouvement, en fait, spirituel qui était là dans cette époque et qui était, oui, un contexte, je le crois, véritablement de réveil. Plus proche de nous, nous avons entendu, personnellement je ne l'ai pas vécu, entendu parler aussi d'un certain réveil qui, au XXe siècle, plutôt dans la première moitié, avait eu lieu donc en Normandie, dans la région du Havre, dans ces coins-là. Là aussi, il y a eu des moments, en fait, véritablement de visitation très profonde de la part du Seigneur et qui a donné à nouveau une revitalisation à l'Église à cette époque-là. Et au-delà de l'Église, bien sûr, des conversions, des personnes qui ont été touchées d'une façon profonde par le Seigneur et dont la vie a été bouleversée. L'Église apostolique, on le sait tous, est issue d'un réveil, le réveil au Pays de Galles, qui fut extrêmement intense, extrêmement bref aussi, mais qui a suscité en tout cas eh bien, des mouvements missionnaires dont nous sommes issus aujourd'hui. Et l'Église apostolique que nous représentons, en France, ce sont 25 églises à peu près, mais dans le monde, c'est une présence dans 92 pays sur les 5 continents. Eh bien, cela est né d'un réveil avec des frères, des sœurs, en fait, qui ont vraiment été interpellés, qui ont vraiment été impactés par l'Esprit du Seigneur, par la parole de Dieu, et qui sont partis justement témoigner dans diverses parties du monde. Et aujourd'hui, je crois que c'est au Nigeria où l'Église apostolique est la plus nombreuse, avec des millions en fait de personnes. Témoins donc de ce réveil et de cette action missionnaire donc, qui s'est déroulée donc depuis le début, donc depuis 100 ans en réalité. Est-ce que nous voulons croire aujourd'hui que c'est la volonté de Dieu aussi pour notre pays, aujourd'hui, dans ce 21e siècle, eh bien, de réveiller nos consciences, de réveiller le pays dans lequel nous sommes. A contrario, j'aimerais vous poser cette question. Est-ce que vous croyez que c'est la volonté de Dieu de conserver cet état de sécheresse et de dessèchement dans lequel la France se trouve aujourd'hui? Je crois que la réponse est évidente. Je ne crois pas que ce soit la volonté de Dieu. Je crois au contraire que la volonté de Dieu, c'est bien de donner une revitalisation, pour reprendre des termes que nous utilisons au niveau de l'Union quand nous parlons du processus dans lequel nous sommes. Mais au-delà de ce processus, eh bien, je crois que c'est véritablement quelque chose de spirituel qui est en jeu là et dans lequel nous devons nous projeter. Est-ce que nous voulons considérer cela? Est-ce que nous voulons nous arrêter par rapport à cela et nous laisser interpeller par le Seigneur, lui demander de réveiller nos cœurs, ce dont nous avons besoin? Alors, comme je le disais tout à l'heure, c'est vrai que des missionnaires, c'est peut-être 20, 30, 40 dernières années, ont eu à cœur notre pays, ont eu à cœur la France. À une époque, il y a voilà, peut-être 30 ans, la France était qualifiée de cimetière pour missionnaires. Tout ça pour dire en fait combien le terrain français était quelque chose d'extrêmement dur. Je crois que les temps ont changé. Je crois qu'aujourd'hui, il y a davantage d'ouverture. Des pays, en tout cas, qui prient pour la France aussi, aujourd'hui. Donc des missionnaires qui ont eu à cœur, qui sont là encore parmi nous aujourd'hui et qui ont à cœur donc notre pays depuis des années. Des pays aussi qui se sont mis à prier donc, pour la France. Seigneur a déposé donc des fardeaux, vraiment des fardeaux de prière. Nous avons eu le privilège à Paris d'être contactés par Donc un groupe, enfin par une organisation, un pasteur qui organisait donc la venue de groupes de prière coréens. Donc on a dit ok, on est ok pour accueillir ce groupe de prière. Et en fait, c'est toute une église en Corée, une petite église de 10 000 membres, qui a eu à cœur la France. Et qui depuis, donc là ça aurait été la troisième année, mais avec le Covid il n'y a pas cette mission de prière, mais qui envoie en fait des groupes de prière dans différentes églises. Donc ça a commencé par Paris, puis ça s'est étendu un petit peu, un petit peu au-delà. Des groupes de prière en fait pour prier tout simplement pour la France, pour prier pour le réveil en France, pour prier pour les églises en fait que nous sommes. Et c'était vraiment extrêmement touchant pour nous, d'avoir des frères et sœurs qui viennent de l'autre bout de la planète pour prier tout simplement, prier pour notre pays, prier pour l'Église, prier pour qui nous sommes, là où le Seigneur nous a placés. Voilà, c'est un exemple, mais je crois vraiment que le Seigneur suscite en tout cas des choses particulières par rapport à la France aujourd'hui. On a fêté, entre guillemets, donc les 10 ans du CNEF récemment. Et je crois aussi que ça, c'est une œuvre que le Seigneur a suscitée depuis 10 ans et qui a été une bénédiction vraiment pour notre pays. Ça, c'est... Alors auparavant, il y avait d'autres fédérations, bien sûr, mais ça a vraiment été une fondation d'unité qui a eu lieu donc il y a 10 ans exactement, un petit peu plus longtemps pour les préparatifs et les fondations, mais qui a ouvert aussi vraiment une voie d'unité en France entre les églises, avec une vision vraiment de développement, d'évangélisation. On sait par exemple toute l'implication dans le développement des églises, l'implantation, avec ce volet du CNEF qui s'appelle « Une église pour 10 000 habitants ». La vision, c'est que dans chaque territoire de la France, pour une population de 10 000 habitants, il y a au moins une église évangélique. Et c'est quelque chose, en fait, vraiment qui est très fort au CNEF, de développer cela. Voilà, j'ai eu la joie, avec d'autres frères de l'église apostolique, eh bien, de participer à une communauté d'apprentissage à l'implantation d'églises, donc il y a quelques années en arrière, développé par le CNEF. Et c'était vraiment une joie de pouvoir travailler justement sur ce sujet en lien avec d'autres unions d'églises. Et il y avait un facilitateur américain qui était là, donc quelqu'un qui nous aidait à aménager tout ce temps et puis à travailler avec une certaine méthodologie. Et il disait, mais j'ai été invité dans de nombreux pays pour travailler avec les églises, mais il n'y a que la France où c'est un travail interdénominationnel. D'habitude, je suis appelé par une dénomination en particulier qui me dit, mais voilà, on a besoin de vous, on veut développer notre mouvement, on veut développer en fait nos églises dans ce pays. Voilà, et on fait appel donc à cette personne. Et en France, eh bien, il dit, c'est la première fois que je vois dans un pays des églises se mettre ensemble de dénominations différentes pour travailler. Et ça, c'est aussi, je le crois, vraiment quelque chose de très fort. Donc tous ces signes, je dirais, qui sont des signes quand même objectifs, que Dieu parle, que Dieu inspire et que Dieu veut changer la réalité de notre pays. Alors si on revient un tout petit peu donc, à ce texte d'Ézéchiel au chapitre 37, en fait, on voit qu'il y a une réalité sur laquelle je me suis étendu assez longuement. Et puis, il y a une volonté de Dieu. Et cette volonté de Dieu qui s'exprime à travers une parole prophétique, deux paroles prophétiques, qui est adressée à un prophète. Et ce prophète va ensuite agir pour donner la parole, une parole d'autorité, qui va mettre... je dirais, en mouvement, l'action et la volonté de Dieu. Mais il y a donc le constat du contexte, il y a une volonté de Dieu. Moi, je crois, en tout cas, quand je constate les éléments objectifs que je vous ai nommés, que la volonté de Dieu est bien là pour agir véritablement dans notre pays. Et donc, je crois que c'est aussi maintenant à l'Église d'être vraiment réceptive à ce que le Seigneur veut dire par rapport à notre pays. On voit effectivement dans ce passage que ce n'est pas l'action de Dieu seul, mais que c'est l'action d'un Dieu incarné dans l'Église, quelque part. C'est à travers l'Église que Dieu agit. Ici, à travers une parole prophétique, hein, c'est seulement à partir du moment où le prophète prophétise comme il en avait reçu l'ordre, que les choses se passent, qu'il y eut soudain un bruit, puis un mouvement qui se produisit, les eaux qui se rapprochent les uns des autres. Et pendant qu'il regardait, en fait il était spectateur, eh bien voilà que se formaient donc les nerfs, la chair, la peau, et puis la deuxième fois, la deuxième prophétie, eh bien c'est l'esprit qui vient donner vie donc à ce corps. On voit donc le rôle de l'Église, et quelque part ça nous interroge aussi personnellement et chacun d'entre nous, puisque nous sommes l'Église, de notre ouverture par rapport à être utilisé par le Seigneur. La semaine dernière, Jean-Marc a partagé sur le fait de se lever à la manière d'Abraham, se lever pour entrer dans ce que le Seigneur a pour chacun, c'est-à-dire finalement de rentrer dans notre identité véritable, d'entrer vraiment dans, pour chacun d'entre nous, dans toute la dimension de ce que le Seigneur a, de ce que le Seigneur veut, sans limiter le Seigneur, mais véritablement d'être dans une attente de foi, dans une attente d'espérance, en tant que co-ouvrier avec le Seigneur. Le Seigneur n'agit pas seul, mais le Seigneur agit avec son Église, agit en interpellant son Église d'une façon spéciale, par son esprit, par sa parole, et d'une façon puissante aussi, nous le croyons. Donc la question, en fait, pour nous, ce matin, c'est, je crois, par rapport au contexte dans lequel nous vivons, est-ce que nous voulons nous laisser interpeller? Est-ce que nous sommes ouverts pour nous laisser interpeller par la parole du Seigneur, par l'Esprit du Seigneur, par ce qu'il veut faire de plus en nous? Est-ce que nous avons soif de cela? Est-ce que nous sommes ouverts envers cette action de Dieu? Est-ce que nous sommes libres de lui dire oui, de lui répondre et d'être à sa disposition pour faire ce qu'il nous dira de faire, et de croire que c'est possible. Amen. Alors évidemment, c'est une ouverture que le Seigneur nous demande, et quand nous sommes ouverts, eh bien ce n'est pas la fin de l'histoire, c'est une partie, c'est un bout du chemin. Il y a tout un cheminement aussi, je le crois, dans lequel le Seigneur veut nous conduire. Mais la première question que le Seigneur nous adresse ce matin, c'est « Le veux-tu ? Veux-tu te laisser utiliser par moi ? Es-tu ouvert, ouverte, pour laisser mon esprit, laisser ma parole agir pleinement dans ta vie et te laisser entièrement interpellé, impacté, renouvelé. » J'aimerais que nous prions quelques instants en conclusion de ce temps. Seigneur, nous sommes bien petits. Seigneur, mais toi, tu es le Dieu de l'impossible. Tu es le Dieu qui est le Dieu créateur. Là où les choses n'existent pas, eh bien toi tu les crées. Là où les choses sont asséchées, eh bien tu fais couler un nouveau courant d'eau, un nouveau fleuve. Et ce matin, eh bien, nous voulons prier pour notre pays, pour la Bretagne, mais globalement pour notre pays. Véritablement, que tu suscites un renouvellement puissant, une revitalisation, que tu suscites vraiment un réveil spirituel dans ce pays. Et quand on parle de ce pays, eh bien, c'est avant tout aussi dans nos cœurs. Seigneur, nous prions pour cela. Seigneur, nous prions pour ce réveil spirituel. Et Seigneur, ce matin, nous sommes devant toi. Et nous, Seigneur, dans ce temps de culte, eh bien, nous voulons aussi ouvrir notre esprit vraiment à ton interpellation. Et te demander, Seigneur, vraiment maintenant, d'interpeller nos cœurs par ta parole, par ton esprit, par ta volonté. Seigneur, viens, nous qui sommes l'Église, eh bien, viens, Seigneur, viens interpeller, viens sonder, viens changer, viens transformer. Seigneur, ce matin, nous voulons te dire, tu es le bienvenu. Tu es le bienvenu dans nos cœurs. Tu es le bienvenu. Et nous voulons ouvrir notre esprit. Nous voulons ouvrir notre cœur, Seigneur, à ta parole, à ton action et à ton interpellation. Dans le nom de Jésus, nous prions. Amen.